soir, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, appelle la République démocratique du Congo et le Rwanda au calme et au dialogue pour régler pacifiquement la crise au sujet du M23. C'était hier, dimanche 29 mai, à travers son compte Twitter. Le président sénégalais encourage Kinshasa et Kigali à recourir aux organisations sous-régionales de l'Union africaine. Cette tension est montée entre les deux pays depuis que la RDC a constaté le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 qui affrontent les FRDC dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru au Nord Kivu. Le porte-parole du gouvernement congolais a évoqué mercredi 25 mai dernier le soutien de Kigali au M23 en violation des accords bilatéraux. Le Rwanda de son côté rejette ces accusations, les qualifiant d'accusations sans fondement. Et le ministre des Affaires étrangères de ce pays a même à son tour accusé la RDC de collaborer avec les FDLR qui, selon lui, mijotent la déstabilisation du Rwanda. Quelle lecture faire de toute cette situation? La proposition du président Macky Sall est-elle la meilleure option pour régler cette crise de manière efficace et durable? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous serons ce soir avec Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir aux auditeurs de Radio Okapi.
Mais aussi Chaubert Aguenonga, bonsoir.
Bonsoir.
Chaubert Aguenonga, vous êtes professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Et enfin, Moïla Tchiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Moïla Tchiembe, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Au Nord Kivu, le calme s'est rétabli depuis ce week-end dans les zones de combat. Dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo, les rebelles du M23 qui étaient à Kibumba, territoire de Nyiragongo, de même que ceux qui étaient dans la zone de Kanombe, territoire de Rutshuru, se sont tous repliés vers la frontière avec le Rwanda ou dans le parc, indiquent des sources. Du coup, la route nationale numéro 2 est à nouveau praticable au niveau de Kibumba. Les détails avec Bernard Denyangi.
Après le retrait sans combat des rebelles du M23 de tous les villages autour de Kibumba, territoire de Nyiragongo, entre 2h et 6h du matin hier dimanche, les patrouilleurs FARDC ont repris le contrôle total de cette zone, ce qui a permis la réouverture de la route nationale numéro 2 après près de 5 jours de fermeture. C'est comme le dit ici le lieutenant-colonel Guillaume Ndjiki Kaiko, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2.
L'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Et aujourd'hui, les forces armées viennent de réouvrir cet axe. Il y a deux patrouilles de combat, une qui est partie et comment faire l'organe sous l'inspection du général des brigades Chikotitambo et une autre qui est partie de Rutshuru jusqu'à cette place sous l'inspection du général-major Chirimwa Mikitel, le commandant de l'État opérationnel.
Selon la société civile du territoire de Nyiragongo, après la reconquête depuis ce dimanche de tous les villages et de cette entité, quelques habitants commencent à retourner. Même chose dans le territoire voisin de Rutshuru, où les habitants ayant fui les dernières attaques des rebelles du 1-23 dans le groupement Rugari et Kisigari retournent déjà dans leur village. Goma, Bernardin Yangi, Radio Okapi.
Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Ce que nous venons d'entendre, c'est la situation de ces quelques heures à l'est de la République démocratique du Congo. Quel regard avez-vous sur l'évolution de ce feuilleton sécuritaire en République démocratique du Congo ces jours-ci, mais aussi de manière générale de toute cette situation de tension sur le terrain, mais aussi diplomatiquement entre la RDC et le Rwanda?
Merci en tout cas pour l'invitation et je profite pour saluer mes collègues co-débatteurs donc de ce soir. Alors c'est une excellente question que vous posez, c'est qu'il faut toujours remettre cette question, cette problématique dans son contexte. Il faut savoir que depuis que les trois pays, on va dire les trois pays anciennement colonies belges, sont indépendants, on a toujours eu des questions de sécurité. Et ces questions de sécurité ont été pendant plusieurs années, notamment dans les années 60, avec les différentes rébellions. On n'a pas eu que des rébellions au Congo, il y a eu des rébellions au Burundi, il y a eu des rébellions au Rwanda. Et dans cette dynamique de rébellion, on a remarqué que dans les années 60, il y avait une dynamique régionale qui impactait justement sur le niveau local et national. Et ce constat, les différents régimes de l'époque se sont mis d'accord pour essayer de résoudre cette question de manière collective, c'est-à-dire de manière au niveau régional. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on a commencé ce qu'on pourrait appeler un processus d'intégration régionale basé sur les questions sécuritaires, avec comme principe fondamental, aucun des trois pays ne peut accepter sur son territoire la présence de groupes armés qui ont une influence au niveau de l'autre pays dont ils sont originaires. Ce qui veut dire que le Rwanda ne peut pas accepter sur son territoire la même chose pour le Congo et la même chose pour le Burundi. Et alors ça a eu comme conséquence une stabilisation de la situation sécuritaire puisque les trois pays se sont entre guillemets tendu la main pour dire on doit résoudre ces questions-là de manière sécuritaire. Et on a connu une période de paix assez longue entre ces trois pays où on n'a plus eu des mouvements rebelles, on n'a pas eu de groupes rebelles qui interféraient d'un côté ou de l'autre. Malheureusement, les choses se sont gâtées dans les années 90 avec ce qu'on peut appeler les changements des élites politiques au niveau de différents pays. Et qui dit changement d'élites politiques dit aussi changement au niveau des dynamiques, voire même des politiques. Et ainsi, la question qui était la question sécuritaire qui a soudé les trois pays pendant longtemps va devenir maintenant le nœud de la guerre, le nœud de la dissension entre ces trois pays, aussi bien Rwanda-Congo que Rwanda-Burundi, ou bien dans un ancien avenir, il y a quelque temps, entre le Congo et donc et le Burundi. Et donc clairement, c'est un problème qui est vraiment très pendant. Et lorsque en plus on regarde le contexte actuel, vous allez vous rendre compte que par rapport à la situation passée, on se retrouve presque dans la même dynamique que des années 60. Chaque pays accuse l'autre d'avoir sur son territoire des groupes armés qui sont formés et qui rentrent dans une dynamique non seulement régionale, mais aussi en ayant un impact au niveau national.
Mais Bob Kabamba, vous faites bien de rappeler toute cette histoire et cela va nous permettre de nous lancer justement dans l'analyse tout au long de notre émission. Mais est-ce que, on entend beaucoup ça dans les commentaires, est-ce que c'est l'état de siège qui est à la base de la frustration actuelle du Rwanda? Sinon, qu'est-ce qui peut justement expliquer en ce moment-ci une certaine frustration du Rwanda envers la République démocratique du Congo et dans une certaine manière aussi vice-versa? On se rend quand même compte qu'il n'y a pas très longtemps, dès son accession au pouvoir, le président actuel de la RDC, Félix Tshisekedi, a tendu la main à Paul Kagame et Paul Kagame a réagi plus ou moins favorablement. On a eu comme l'impression que la fraternité vraiment entre les deux pays était née et était installée. Mais en fait, l'opinion générale ne comprend pas comme cette espèce de retournement de situation. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cela?
Oui, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut intervenir sur cette question. Ce n'est certainement pas l'état de siège qui est à l'origine de la montée en puissance de l'insécurité et des problèmes sécuritaires dans la région. C'est assez simple de dire, lorsque l'on veut effectivement mettre fin à une dynamique conflictuelle, à une dynamique sécuritaire, dans laquelle il y a une implication des parties régionales, c'est-à-dire des pays étrangers qui sont impliqués dans une dynamique d'insécurité dans une partie du territoire, la solution ne peut venir qu'avec ce pays limitrophe. Ça veut dire, dans le cas actuel, la solution ne peut venir qu'avec le Rwanda. Alors, le problème est le suivant, c'est que on doit aussi se dire la vérité, c'est que l'Est du Congo, quand on parle de l'Est du Congo, on a toute la partie orientale du Congo, qui est ce qu'on appelle dans le contexte rwandais, constitue ce que s'appelle sa zone d'influence, c'est-à-dire une zone sur laquelle le Rwanda impacte à une espèce de extension de son pouvoir au-delà de son frontière, donc dans la partie est-orientale. Et alors, mais ce fait-là a été acquis pendant quand même plusieurs années du côté rwandais, mais l'intervention, si vous regardez bien la chronologie et la montée en puissance de la sécurité, la chronologie des événements fait qu'en faisant intervenir l'Ouganda dans l'espace considéré par le Rwanda comme faisant partie de sa zone d'influence, et alors là, ça veut dire que par rapport au Rwanda, sa zone d'influence étant menacée par la paix de notre France, et de là on réactive ce qu'on appelle les supplétifs, un supplétif un peu partout, dans le cas du Rwanda, le supplétif, donc c'est le M23, le activer pour créer la sécurité et déstabiliser, empêcher entre guillemets qu'il y ait une espèce de prise en compte de cette zone d'influence. Et quand vous regardez chronologiquement, vous allez vous rendre compte que la montée en puissance du M23 vient consécutivement à l'entrée sous le territoire congolais des forces donc ougandaises. Les deux aspects sont liés et en même temps, lorsque vous regardez les discussions qui se sont passées par après, et ces discussions, beaucoup concernent effectivement le contrôle donc de cette zone d'influence qui est à l'est de la RDC.
Alors, Bob Kabamba, en réaction, on a vu la RDC réagir assez fermement, peut-être pas encore suffisamment jusqu'ici, selon peut-être une bonne partie de la population de la RDC. La RDC a donc brandi ses muscles, a pris des décisions, a menacé le Rwanda, a coupé certains de ses intérêts ici, notamment sa compagnie d'aviation ici localement. Pensez-vous que la RDC a bien réagi par rapport à la situation du moment, et pensez-vous que la RDC a brandi les bons muscles?
En analysant de manière très claire, non, je ne pense pas que la RDC a bien réagi par rapport à la dimension. Là, on a l'impression qu'on a une dimension, parce qu'il y a deux dimensions dans cette problématique. On a une dimension provinciale nationale et on a une dimension régionale. Et alors, or, si on veut prendre des décisions, il faut prendre des décisions en prenant en considération ces deux dimensions, la dimension nationale et la dimension régionale. La dimension nationale, provinciale et nationale, c'est de prendre en considération effectivement la dynamique provinciale. La dynamique provinciale est liée à la cohabitation difficile entre d'une part les communautés rwandophones et les communautés dites congolaises. Je dis congolaises, je vais entre guillemets, puisque les communautés rwandophones qui vivent au Congo sont aussi des
populations congolaises.
C'est aussi des Congolais. Et donc, mais cette difficulté d'habitation qui existe quand même depuis pas mal de temps, dans laquelle on a toujours du mal à pouvoir apporter des réponses appropriées, auxquelles on doit apporter des réponses à ces questions-là. Question de terre, question de pouvoir, question de partage de pouvoir, question de ce qu'on appelle de cohabitation entre différentes communautés au sein de cet espace pour que chacun arrive à avoir des modes d'expression, des modes économiques, des modes politiques par rapport à leurs préoccupations. Et à côté de ça, on a la dynamique régionale. Sur la dynamique régionale, il y a deux choses. Il y a l'effet qu'il c'est une zone d'influence, ok, mais la réponse à mon point de vue, ce n'est pas nécessairement cette réponse-là. C'est une réponse en ayant des manières claires de discussion directe avec le Rwanda, qui est le premier protagoniste, et grâce à par qui il est possible de pouvoir imposer la paix. Et deux modes d'action, bien sûr, l'action militaire, puisque nous ne sommes plus dans une dynamique de discussion, ça veut dire qu'on est dans une dynamique militaire, et que si on est dans une dynamique militaire, et qu'on juge que ce n'est que la position, l'option militaire qui va apporter des réponses favorable à la RDC, alors assumer la réponse militaire, c'est-à-dire aller au-delà, s'il faut déclarer la guerre au Rwanda, alors déclarer la guerre au Rwanda, si l'on juge que c'est la réponse militaire qui est la réponse adéquate à cette préoccupation, donc à cette dynamique régionale.
Merci, professeur Bob Kabamba. Nous vous gardons dans ces débats. Chobert Agenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Partagez-vous l'analyse de Bob Kabamba, ou peut-être en partie? Considérez-vous que tout le problème actuel entre le Rwanda et la RDC et la reprise d'activisme du M23 est dû au grignotage par d'autres pays voisins de la RDC, de la sphère du pouvoir du Rwanda?
Alors, à mon humble avis, je pense que cet argumentaire ne se justifie pas si réellement l'Ouganda constituait une menace pour la zone d'influence du Rwanda. Et en revanche, le diagnostic sur le terrain démontre à suffisance que le Rwanda est en train de se rapprocher progressivement de l'Ouganda. Et il y a quelques jours, nous avons d'ailleurs lu dans les comptes Twitter du général Muhoozi, qui est le commandant des troupes ougandaises sur le sol congolais. Il disait qu'il annonçait clairement une probable opération conjointe entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise sur le sol congolais. Je crois que cette question doit plutôt être relativisée. À mon humble avis, il faut remettre le débat au centre, il faut ramener cette question dans son contexte régional et congolais. Alors, dans le contexte régional, ce qu'il faudrait rappeler, c'est le fait que c'est depuis plutôt 2013, lorsque le M23 a été mis en déroute, ses militaires ont fui en Ouganda et au Rwanda, là où ils se sont installés, et s'en suivra en décembre, je crois, le 13 décembre 2013, si ma mémoire ne me trahit pas, un acte, une déclaration de paix, c'est ça le terme qui a été choisi par les partis. Et dès lors, on a constaté que les anciens rebelles, donc les ex-M23, étaient toujours restés entre le sol rwandais et ougandais. Et en 2019, ça il faut le rappeler, je pense que c'est important, le 29 octobre, la RDC et le Rwanda ont signé un acte d'engagement commun, ce qu'on appelait la feuille de route de rapatriement du M23. Alors, c'est plutôt en novembre 2021 que nous avons constaté la résurgence du M23. Je pense que là où il faudrait plutôt aborder ces débats avec lucidité. Alors, pourquoi est-ce que le Rwanda a profité de cette période précise pour réactiver le M23, mais la raison est bien simple. On se rappellera que le chef de l'État avait promis de restructurer les deux services qui s'occupaient l'un du désarmement et l'autre de la stabilisation. Il s'agit respectivement du PN2DR et du STAREC. Donc les deux services ont été fusionnés pour donner naissance au PDRCS. Et pour le Rwanda, évidemment, il voulait plutôt réactiver le M23 pour pousser la République démocratique du Congo à réintégrer et ses rebelles au sein des FRDC dans le seul but d'infiltrer l'armée congolaise et de continuellement exercer la main basse sur la partie est de la République démocratique du Congo. C'est peut-être là où je serai d'accord avec le professeur Bob Kabamba. Mais aujourd'hui, parler de la rivalité entre le Rwanda et l'Ouganda, il faut plutôt relativiser. En revanche, on constate de plus en plus qu'il y a un réchauffement de relations manière spectaculaire entre les deux pays.
Mais Chobert Agnonga, un peu la même question posée au professeur Bob Kabamba. Mais est-ce que la RDC réagit bien à tout ce qui se met en place contre elle? Est-ce qu'en déclarant le M23 mouvement terroriste, en suspendant les activités de la compagnie rwandaise en RDC et en menaçant le Rwanda, ça a été une bonne réaction? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est insuffisant?
Alors, je pense pas que... Je crois que cette riposte est tout à fait légale au regard du droit international. Je voudrais à cet effet citer l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui pose le principe de la légitime défense individuelle et collective. Il faut clairement dire que la République démocratique du Congo est menacée. La République démocratique du Congo est clairement agressée. Il faut clairement dire cela. Et au regard du droit international, dans un contexte pareil, la République démocratique du Congo se trouve en situation de légitime défense. Je pense que la riposte actuelle est plutôt positive, quand bien même il faudrait l'améliorer. Mais à mon humble avis, je crois que cette guerre doit se jouer également sous le plan diplomatique, en ce sens qu'il faut évidemment aussi qu'on mette de pression sur le Rwanda pour qu'il puisse arrêter de soutenir le M23. Je suis par contre viscéralement opposé à la proposition du président en exercice de l'IA Macky Sall qui appelle le parti au dialogue sous la médiation du président angolais Lourenço. Je crois que cette approche est en déphasage complet avec les dynamiques à l'œuvre. En revanche, il faut plutôt mettre sur pied une commission qui puisse établir les responsabilités de parti s'il est établi que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Eh bien, il faut rappeler le Rwanda à l'ordre, il faut punir le Rwanda. Et je crois que c'est d'ailleurs cela parce que tout le monde le sait, ce n'est pas un secret de Polichinel. Le M23 était sur le sol rwandais et on ne comprend pas comment est-ce que le M23, les rebelles du M23 se sont retrouvés sur le sol congolais avec tout cet arsenal militaire qui a été présenté. Ça montre clairement que ce mouvement est devenu un bras séculier que le Rwanda peut brandir à chaque fois et que le besoin se fait sentir de son côté pour faire fléchir les institutions de la République démocratique du Congo.
Merci, professeur Choubert Aguenonga. Moi, il a été directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France et professeur d'université, bien entendu. Moi, la TMB, vous intervenez en troisième position. Ce n'est pas que nous aurions voulu vous défavoriser par rapport aux autres, mais il fallait bien qu'une personne intervienne en ce moment-ci. Quel est votre regard de tout cela, la situation qui évolue sur le terrain, la réaction des uns et des autres, mais aussi quel avis vous avez sur les analyses de vos collègues?
Merci de votre invitation. Je pense que, peut-être je me trompe, mais je pense que le Rwanda, depuis bien longtemps, ne nous avait pas habitués à des bourdes. La décision rwandaise, si elle s'est révélée à partir des indications ou de preuves apportées par la République démocratique du Congo, si ces informations étaient vérifiées par des sources indépendantes, attestant que le Rwanda soutient militairement le M23, ce serait une grosse bourde de la diplomatie rwandaise depuis bien longtemps. Pourquoi? Parce que depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, contre vents et marées, vous êtes congolais, vous suivez l'actualité et les réactions des gens, sa main tendue aux pays de la région pour faire la paix, pour faire la mutualisation des forces, ce n'est pas quelque chose que plus de 80% des Congolais ont accepté, vous le savez bien. C'est une stratégie nouvelle qui reprend en gros ce qu'avait proposé à l'époque Mobutu dans sa stratégie de la vocation africaine du Zaïre, le bon voisinage avec les amis, on fait la paix avec les ennemis, on ne fait jamais la paix avec les voisins. Mais au moment même où ce gouvernement, contre vents et marées, cherche une piste de solution à ces questions régionales avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Ouganda, sans compter les réunions qui ne datent pas de longtemps à Nairobi, avec l'idée de mobiliser une capacité de défense régionale pour pouvoir s'attaquer à toutes les forces hostiles qui sont dans la région. On se serait attendu à ce que le Rwanda, dont la diplomatie militaire fait son orgueil aujourd'hui et lui attire une certaine sympathie dans le monde, non seulement parmi les Africains, mais parmi tous ceux qui observent la situation, on est surpris, parce que ce que les collègues Bob et le professeur
Choubert Aguenonga
viennent de dire tout à l'heure, c'est des faits que personne ne peut contester, mais on ne voit pas quel est l'intérêt stratégique du Rwanda aujourd'hui de fragiliser ou d'humilier le président Tshisekedi et sa politique de bon voisinage. Qu'est-ce que le Rwanda cherche en réalité? C'est cette question-là qu'il faut y poser.
Oui,
Qu'est-ce que le Rwanda cherche en voulant humilier le président congolais en montrant aux Congolais, parce que vous connaissez l'opinion congolaise, notamment à l'est de la RDC, si ce dont on parle est vrai, le Rwanda s'est trompé et le Rwanda risque de le payer cher. Ah. Vous avez entendu la réaction des États-Unis, hein, les puissances qui, depuis bien longtemps, n'ont cessé de soutenir le Rwanda. Pour une fois, le Rwanda est trop loin pour rien. Je ne sais pas quel est le gain stratégique que le Rwanda gagnerait.
Alors, pour la professeure Moïla Tshiembé, votre collègue Bob Kabamba estime que le Rwanda est frustré avec le rapprochement de la RDC et l'Ouganda, notamment dans la collaboration militaire. Le Rwanda estime que sa sphère d'action et d'influence est violée et donc réduite. Elle n'accepte pas ça. Et de l'autre côté, Chobert Aguenonga estime, lui, que le Rwanda a eu envie d'infiltrer une fois encore l'armée de la République démocratique du Congo pour continuer à s'imposer dans le pays. Vous ne pensez pas que c'est le cas?
Ben, écoutez, les informations d'infiltration que le professeur Chobert a présentées, peut-être qu'il a des preuves que moi je n'ai pas, mais même l'argument de notre distingué collègue Bob Kabamba, l'argument d'après lequel l'Ouganda se serait improvisé dans le champ d'action qui serait la chasse gardée du Rwanda à l'est de la RDC. Non, je pense que l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une terre sans maître qui aurait été laissée à la merci des voisins. Que les voisins interviennent, parce que la géographie oblige, qu'on vende en Ouganda, que les Ougandais vendent en RDC, que les Rwandais travaillent ou vendent au Congo et que les Congolais aillent à Kigali, à Bujumbura, c'est la réalité géographique. Mais cela ne confère à personne, ni au Rwanda, ni au Burundi, ni à l'Ouganda, une sorte de précaré qui aurait été... Je comprends bien qu'il y ait eu des finasteries diplomatiques ou de la gloire dans tel ou tel pays, mais il n'y a pas de territoire de la République démocratique du Congo à vendre, ni même à céder. Je ne vois pas un seul Congolais qui accepterait une cession d'une portion du territoire congolais. Bien sûr, on peut croire à une certaine prétention à la puissance, mais à l'heure qu'il est, personne n'a fait la démonstration de cette puissance au regard de la République démocratique du Congo. Non. Ce sont des arguments recevables, mais qui ne sont pas acceptables parce que non vérifiés. Je ne vois pas où est la vérification que l'Est de la République démocratique du Congo serait la chasse gardée du Rwanda, encore moins de l'Ouganda. Non, je ne vois pas personnellement ce que le Rwanda gagnerait derrière le M23 s'il se révélait demain que les preuves apportées par le gouvernement de la République démocratique du Congo sont vraies. C'est une véritable bourde stratégique et diplomatique du Rwanda. Vous verrez, l'histoire nous dira dans les mois et les années qui viennent si le Rwanda va engranger un gain matériel ou moral avec cette histoire sur le M23. Il y a peut-être une possibilité, comme Bob Kabamba l'a souligné, ou même le professeur Chobert, du moment où il y a eu la guerre du M23, les M23, c'est une des composantes des Banyamulenge, les Tutsis congolais. C'est incontesté. Toutes les guerres qui ont été menées, les accords à Manileo, etc., ces Congolais, à la suite des différentes guerres, beaucoup ont fui leur territoire, perdant leurs biens, etc. Dans les différents accords, il a été prévu qu'ils rentrent dans le pays, qu'ils récupèrent leurs biens. On y a ajouté une sorte de gâterie, oui, de les intégrer dans l'armée, dans le gouvernement, parti politique, j'en passe des meilleurs. Ça, c'est une autre réalité. Que les gens du M23, qui sont des Congolais par définition, veuillent, à partir du moment où ils ont été défaits militairement, et que le processus de leur réinsertion n'a probablement pas été conduit jusqu'à la fin, ils peuvent avoir raison de revenir vers leur gouvernement, de leur pays, demander à ce que leur situation soit réglée. Ça, c'est tout à fait légitime, parce que ce sont des Congolais. Mais partir de là, pour dire... aller prendre les armes avec l'appui des gouvernements étrangers pour pouvoir tirer sur les soldats de leur pays, les RDC qui défendent leur propre parti, il y a là quelque chose d'incongru et je pense que personne ne peut recevoir, même leur demande légitime. de regarder leur situation. Et là, ils se sont égarés. Et s'ils s'égarent avec le Rwanda, vous verrez les jours à venir, nous montrerons qui avait tort et qui avait raison.
Merci, Moïla Djiembe, Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Bob Kabamba, pour vous, cette analyse de cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa.
Pasteur Biamungu Kouba depuis la ville province de Kinshasa. Déjà, le fait pour les Rwandais de rejeter les accusations de la RDC à l'accusant à son tour, sans prévenir à tasse de soi-disant FDLR au Rwanda, est une réponse à la proposition de Macky Sall, dénotant de l'hypocrisie du Rwanda, qui d'ailleurs est en négociation avec la RDC en Ouganda pour se faire. La seule solution, c'est déclarer la guerre contre les Rwandais et poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement, chose que Kinshasa n'a jamais songé faire et se contente que d'accuser seulement en gardant une bonne amitié diplomatique avec les Rwandais, son adversaire. Ça, c'est une autre forme d'hypocrisie pour ne pas dire de complicité dans les chefs de l'autorité congolaise contre son propre peuple.
Bob Kabamba, nous sommes dans la partie finale de notre émission. Nous allons donc essayer de ramasser les autres préoccupations qui restent de manière concise. Alors, la réaction à cet auditeur, vous allez la lui donner, mais je profite pour ajouter deux préoccupations. Le Rwanda ne reconnaît pas les accusations de la RDC et semble botter en touche avec des involtures. Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, propose le dialogue et le calme. Pensez-vous que la réaction ou le comportement du Rwanda soit le bon, et quelle solution donner à ce problème de manière définitive? Faut-il appliquer la proposition de Macky Sall ou proposez-vous d'autres pistes de solution?
En tout cas, merci en tout cas pour ces différentes questions qui vraiment sont des questions trop qui demanderont vraiment qu'on puisse avoir vraiment de débat avec plus de précision et plus de temps pour avoir le temps de bien expliquer aux auditeurs de quoi il est question. Alors, en réponse d'abord dans un premier temps à l'auditeur, c'est que l'auditeur effectivement épouse bien a posé le bon diagnostic. S'il y a un problème entre le Rwanda et le Congo, comme je le dis tout au départ, s'il y a un problème entre le Congo et le Rwanda qui sont liés au contexte de sécurité, et que le Congo juge que c'est le Rwanda qui est la source de l'insécurité à l'Est, et que c'est la logique militaire qui prévaut, si c'est la logique militaire qui prévaut, on répond par une logique militaire. En fait, la remarque même de l'auditeur est que si le Congo juge que c'est une logique militaire, dans ce cas-là, on ne va pas dans la logique militaire, on va jusqu'au bout par rapport à la logique militaire, et cette logique militaire veut dire on ne résout pas le problème de la sécurité uniquement au Congo, ben, il faut le ramener, tout comme le président Kagame lui-même, il faut le ramener là où le feu a commencé à brûler. Et ça, c'est l'option qui existe. Je ne suis pas militaire, mais c'est les militaires à eux à pouvoir décider sur cette question-là. Et alors, mais je pourrais revenir de manière aussi succincte sur ce qu'a dit mon collègue Mélania. C'est que d'une part, je n'ai jamais dit que c'était qu'on acceptait le fait que la partie orientale soit une zone d'influence. En géopolitique que mon collègue donne, on peut avoir une zone d'influence sans nécessairement occuper, je vais dire physiquement, cette zone. La France a son précaré africain avec divers pays, sans nécessairement pouvoir occuper cet espace. C'est-à-dire simplement, c'est un endroit où on peut exercer ce qu'on appelle son soft power, ça veut dire exercer son pouvoir au-delà des frontières, même si ce territoire-là n'est pas un territoire national. Par ailleurs aussi, il faut souligner qu'il faut toujours faire la différence entre 1-23 et la question des Banyamulenge, qui ne sont pas les Banyamulenge. Donc le M23 n'est pas une composante des Banyamulenge. C'est deux dynamiques différentes, deux dynamiques conflictuelles totalement différentes et qui demandent des réponses totalement différentes. Maintenant, en conclusion, pour savoir sur la question de la médiation, encore, je pense qu'on ne peut pas réinventer l'eau chaude. Je vais vous expliquer que historiquement, c'est un problème qui a toujours été prévalu, et que les différents chefs d'État de ces trois pays, parce qu'il ne faut pas oublier le Burundi, se sont mis d'accord justement pour régler cette situation de manière ferme. Les textes sont là. Les textes de la CPGL, les textes de CIRGL, les accords bilatéraux, tous les accords sont là pour justement casser cette dynamique qu'on appelle la théorie des supplétifs. C'est-à-dire, je veux vous faire la guerre, je ne vous fais pas la guerre directement, je vous fais la guerre à travers un groupe rebelle qui est sur votre territoire ou bien qui est sur le mien que je veux l'influencer. Nous savons tous que c'est cette dynamique-là qu'on appelle la théorie des supplétifs. Donc, il faut mettre fin à cette théorie des supplétifs. Ça a déjà marché dans l'histoire. Et en mettant fin à la théorie des supplétifs, remplacer la théorie des supplétifs par ce qu'on appelle les rapports interdépendants, que le Rwanda dépend du Congo, que le Congo dépend du Rwanda sur toute une série d'options qui ne sont pas des options sécuritaires, qui peuvent être des options économiques, qui peuvent être des options énergétiques, qui peuvent être des options culturelles, académiques, qui fait en sorte que, au lieu d'avoir à chaque fois des rapports conflictuels, maintenant on a les rapports interdépendants dans lesquels les uns et les autres s'en sortent. Je peux vous donner juste un exemple. On prend le gaz naturel du lac Kivu. Alors, pourquoi le Rwanda exploite seul le gaz naturel du lac Kivu, alors que le lac Kivu est sa frontière entre les deux États, et que cette nappe de gaz se trouve aussi bien au Rwanda qu'au Congo. Même en mettant un projet collectif entre le Rwanda et le Congo, va créer une interdépendance énergétique des deux pays, en faisant en sorte que le débat ne sera plus un débat lié aux questions sécuritaires, mais ce sera lié au rapport interdépendant entre les différents pays. Et c'est ça, de mon point de vue, qui doit être la solution. Un, mettre fin à la théorie de supplétif, remplacer la théorie de supplétif par des rapports interdépendants qui sont basés sur l'académique. Je suis sûr que mon collègue Chaubert, ou même le collègue Mouilaj, il donne cours au Rwanda ou il donne cours au Burundi. Moi-même, j'ai déjà donné cours au Burundi, j'ai donné cours au Rwanda, j'ai déjà donné cours au Congo. Et donc, cette interdépendance, on appelle ça des rapports interdépendants, permet justement de remplacer ce qu'on appelle la théorie de supplétif par des rapports interdépendants. Et de cela, on peut rentrer dans une autre dynamique.
Merci.
L'histoire l'a montré et merci. On peut aller dans ce sens-là.
Merci, Bob Kabamba, Chaubert, Agenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Pour vous, ce commentaire de notre auditeur qui nous appelle depuis l'Ituri.
Jean-Baptiste Leninga, moi depuis Arioara, Aru, en Ituri. L'appel de l'actuel président de l'Union africaine, Macky Sall, est tout en fait normal tant qu'un président en exercice de l'Union africaine. Par contre, les affaires entre les États se traitent calmement dans la sincérité. Dans le cas où un des États manifeste l'hypocrisie dans sa diplomatie envers l'autre, ça ne donne jamais lieu à se mettre ensemble. Dans la relation de la RDC et le Rwanda, Kigali n'a jamais été sincère envers Kinshasa, malgré ses bonnes volontés de collaboration. Et dans ce contexte, il sera difficile pour ces deux pays de se mettre d'accord pour un dialogue parce que l'un se sent toujours victime des attaques de l'autre. La chose la plus grave est que l'Union africaine n'a jamais intervenu pour trouver des pistes et des solutions pour ces deux pays. On pourrait dire, face à la recrudescence des attaques du Rwanda, si l'Union africaine était une organisation qui gère les États comme le voit ailleurs, devrait l'OTAN se servir de sa médiation pour mettre fin à ce qui se passe en l'est de la RDC.
Chaubert Agenonga, quelle est l'appréciation que vous avez de ce commentaire? Et aussi, très rapidement, pour terminer, quelle peut être la solution idéale? Faut-il suivre le président Macky Sall ou faut-il proposer d'autres pistes de sortie?
Bien, je suis tout à fait convaincu que la solution va également se trouver sur le front diplomatique, mais encore faut-il que l'approche soit adaptée aux dynamiques du terrain. Et personnellement, je crois que il serait plutôt précipité maintenant de lancer un appel au dialogue entre les partis. Et en revanche, il y a eu des allégations qui ont été en fait de part et d'autre côté, la République démocratique du Congo qui a présenté des preuves qui prouve à suffisance que le M23 est plutôt un mouvement instrumentalisé et par le Rwanda et d'autres éléments de preuve et pas de moins d'ailleurs prouvent que le Rwanda a envoyé ses militaires et combattre sur le sol congolais si l'on s'en tient
alors dans ce cas,
aux arrestations qui ont été
opéré
ces jours-ci. Alors, professeur,
on a vu les FADC présenter des militaires rwandais et qui ont donné des témoignages précis. Ils ont clairement dit qu'ils avaient une mission, ils étaient envoyés pour combattre à Romangabo et ils sont tombés dans le filet des civils.
Alors professeur, les faits sont déjà là, la solution.
C'est d'en appeler à un cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu et envoyer une mission indépendante qui puisse enquêter sur les allégations des uns et des autres, établir les responsabilités et en attirer les conséquences. Moi, je sais que sur le front du dialogue, il faudrait rien s'attendre à la moindre solution de la part du Rwanda. Nous savons que le Rwanda n'a jamais joué frangé et malgré la main tendue de chef de l'État congolais, on a constaté que le Rwanda a voulu plutôt amener la République démocratique du Congo dans un marché des dupes et en réactivant le M23, comme je le dis, le Rwanda pensait que il allait profiter du processus lancé par le PDRCS pour
infiltrer l'armée de la République démocratique du Congo.
Ce qui n'a pas pu être le cas, on l'a vu à Nairobi, et la République démocratique du Congo a exfiltré le M23 de la table de négociation. Et si l'on s'en tient également à la dernière option levée par le gouvernement congolais, eh bien le M23 est désormais considéré comme un mouvement terroriste. En conséquence, il est exclu de tout dialogue. Moi, je crois que il ne faudrait pas se leurrer, il ne faut pas se tromper éperdument. Il faut vraiment, l'Union africaine voudrait aider efficacement les deux parties à résoudre efficacement la crise sécuritaire ou même la guerre qui vient d'être lancée, il faut par contre qu'on envoie une mission
de médiation,
voire une mission d'interposition entre les parties, en attendant que les choses soient tirées au clair.
Merci, professeur Chaubert Aguenonga Moïla Tiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Pour vous aussi, cet auditeur qui nous appelle du Nord Kivu.
Je suis Doubé Mwenemboka. J'appelle à partir de Beni au Nord Kivu. Cette situation est la résultante des faiblesses de la politique congolaise sur les sociétés tant régionales qu'internationales. Le président Macky Sall n'a fait que rappeler les vœux de tout le monde, celui de régler pacifiquement la situation, une voie qui a déjà montré ses limites sur la situation entre la RDC et le Rwanda. Le mieux est que la RDC impose son autorité à n'importe quel prix.
Professeur Moïla Tiembe, êtes-vous d'accord avec la dernière option proposée notamment par cet auditeur? Faut-il en découdre définitivement jusqu'à l'obtention de la victoire de la RDC ou faut-il d'autres pistes qui ont notamment, entre autres, été évoquées ici?
Oui, mais monsieur, vous savez bien, lorsqu'on a passé des années à donner des cours de géostratégie, je ne peux pas me laisser aller à des sentiments. Ce qui est vrai et ce qui est plausible et souhaitable est que l'appel de monsieur le président Macky Sall soit respecté dans le sens qu'il y a des mécanismes, le professeur Chaubert vient de le répéter, Bob également, il y a des mécanismes régionaux de règlement de ces différends. Alors il faut que ces mécanismes fonctionnent. Quel est le but de ces mécanismes dans le cas qui nous préoccupe ici? C'est de vérifier que les arguments avancés par l'une des parties, les unes et les autres, que ce soit l'accusation du gouvernement congolais qui les preuve à la main, dit voilà, le Rwanda est derrière le M23, nous avons la preuve, voici les armes, voilà les hommes, et Kigali qui dit nous n'y sommes pour rien, et tout ça c'est des mensonges. Alors, s'il est établi par ces mécanismes que ce que dit la République démocratique du Congo est vrai, il sera donné à la face du monde la preuve de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers le M23. Et à ce moment-là, toute la crédibilité que le Rwanda a engrangée sera perdue et c'est ça que craint le gouvernement du président Kagame en niant les prétentions de la République démocratique du Congo.
Merci professeur Moïla Tiembe, également à Chaubert Aguenonga et à Bob Kabamba pour votre participation à cette émission. Billy Landry Betou et Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.